Et nous allons ouvrir nos Bibles, toujours dans l'épître de Paul aux Romains. Et nous avons terminé le chapitre 6 la dernière fois. On a dit ce qu'on va dire. Et on continue avec le chapitre 7 ce matin. Donc Romains chapitre 7. Et nous allons lire les premiers 6 versets. Romains chapitre 7 et les premiers 6 versets. Il dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. » Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. Donc, le verset clé que nous voulons voir, c'est justement ce dernier verset, le verset 6, il dit « Mais maintenant », c'est ce qui nous concerne, c'est « Mais maintenant, où suis-je maintenant ?» Et vous savez qu'il s'adresse à des enfants de Dieu, ceux qui ont été justifiés, il dit « Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit, et non selon la lettre qui a vieilli. » Donc, le titre de mon étude, c'est « Le régime nouveau de l'esprit ». C'est ce nouveau régime sous lequel nous sommes maintenant. Le chapitre 7, je sais que je me répète, mais le chapitre 7, c'est la continuité de ce qui a été dit jusque-là, donc il est en train de construire. Donc ce n'est pas un autre chapitre parce qu'il change de sujet, c'est pour des raisons pratiques qu'on a mis des chapitres, mais c'est le même sujet qui continue. Et juste pour rappeler la progression de la pensée de l'apôtre Paul guidée par l'Esprit. Il dit, au début, nous avons vu que nous sommes perçus comme pécheurs devant Dieu. Et les pécheurs perdus. Et le mot perdu, vous savez ce que le mot perdu veut dire. On parle souvent des perdus. Mais perdu, ça veut dire qu'on se retrouve dans une situation de laquelle on ne sait pas sortir. Quand je dis que je suis perdu, ça veut dire que je peux pas sortir de là. Je me rappelle une fois, quelqu'un m'a appelé, un visiteur m'a appelé de Paris au téléphone. Il a dit « Je suis perdu et je ne sais pas, comment rentrer ». Je lui ai dit « Mais dis-moi où tu es ». Il dit « Mais je suis perdu, je ne sais même pas où je suis ». Et donc je lui ai dit d'appeler quelqu'un, un passant, de venir me dire où il était pour que je lui dise quoi faire. Mais ça, c'est être perdu. Mais ça, c'est ce que nous sommes. Dieu nous voit. Il a vu notre état. Nous sommes pécheurs et perdus, incapables de sortir de la situation, incapables de changer quelque chose. Et puis, nous avons vu aussi, nous avons fait remarquer que, en fait, depuis le début, le salut était par la foi. C'était toujours la foi. Peu importe la quantité de révélations qu'il y avait, la question c'était de croire ce qui avait été révélé jusque-là, les promesses de Dieu jusqu'à ce moment-là. ce que Noé devait croire, c'était bien moins que ce que Abraham a cru, c'était moins que ce que Moïse a cru, moins que ce que David a cru. Et nous avons toute la révélation et nous sommes appelés à croire cela. Hein, mais le salut vient par la foi et par aucun autre moyen. Et pour ceux qui reçoivent le salut par la foi, eh bien, sans qu'ils le sachent et sans qu'on ait vraiment compris la chose, eh bien, ils sont justifiés, hein, ils sont déclarés justes. Hein, le jour où vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, pour vous, c'était juste une question de que Dieu me pardonne, il éloigne mes péchés, et puis que je puisse aller au ciel. Hein, c'était à peu près, peut-être, tout ce qu'il y avait dans votre pensée quand vous avez reçu Jésus-Christ. Mais lui, il l'a fait quand même, et à cet instant-là, il nous a déclaré juste. C'est pas seulement qu'il a enlevé le péché, mais il a déclaré juste, c'est-à-dire que ton casier judiciaire céleste est vierge. Et cela parce que non seulement Christ est mort sur la croix, mais aussi parce qu'il est ressuscité. Hein, comme il nous dit à la fin du chapitre 4 de Romains, il nous dit que Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses, est ressuscité pour notre justification. Ce n'est pas seulement que les péchés soient pardonnés, mais en plus, il faut être déclaré juste. Le ciel, ce n'est pas pour des innocents, c'est pour des justes. Et ensuite, Paul explique qu'au chapitre 6, et c'est un peu ce que nous avons vu là, c'est que lorsque nous avons cru, eh bien, nous avons été justifiés, mais en plus, nous sommes unis à Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Nous sommes morts en lui et nous sommes ressuscités avec lui. Et cette notion de mort avec lui, eh bien justement, c'est là où chapitre 7, il reprend cette idée-là. C'est que, et d'où cet exemple qu'il nous donne tout au début du mariage. C'était le sujet n'est pas le mariage, mais c'est juste pour dire que quand il y a une loi qui existe et nous sommes sous un certain régime, la seule manière de passer d'un régime à un autre, c'est par la mort. Hein, donc il dit finalement, c'est pas seulement que Christ soit mort et puis moi j'en bénéficie, mais que je sois mort avec lui, hein, que je m'identifie à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Et c'est ça qui va me permettre de passer à un autre statut. Et si nous sommes morts avec lui, eh bien, ça nous permet d'échapper au pouvoir. Hein, vous savez que, quel que soit votre statut, pouvez être un statut honorable dans la société ou un statut honteux dans la société, la mort vous délivre. Après ça, on peut plus rien faire. On ne sait pas quoi faire. Et c'est la mort, mais là une fin. Et donc il y a la mort de Christ était importante. C'est pas seulement il a porté sur la croix nos péchés en tant que sacrifice, mais il était nécessaire aussi qu'il meure et l'importance des 3 jours dans la tombe. Hein, c'était pour nous et c'était salutaire pour nous. Là, ici, donc, dans ce chapitre 7, ces versets ce matin, ben, il reprend cette pensée de la mort au péché pour souligner l'importance et le rôle que ça a eu pour nous. Et pour illustrer cela, ben, il a pris cette image du mariage, le mariage entre un homme et une femme, parce que c'est les seuls mariages qu'on reconnaît dans la Bible. C'est le mariage d'un homme et d'une femme. Et puis tout d'un coup, ils sont mariés. Et il y a un certificat de mariage. Mais le certificat de mariage, ce n'est pas lui qui fait le mariage, ce n'est pas lui qui maintient le mariage. En fait, le certificat, ce n'est que des... ça certifie que chacun a dit oui quand il s'est engagé. C'est pour ça que le maire, il ne peut pas signer tant que l'un et l'autre n'ont pas dit oui. Hein, il faut qu'ils l'entendent. Et puis après, il y a des témoins, et eux aussi ne peuvent pas signer le certificat tant qu'on n'a pas entendu les oui. En fait, ce qui engage, c'est le oui la promesse, hein, ce oui qui est une promesse, qui est un engagement. Ils ne sont pas liés par quelqu'un de l'extérieur, ils sont liés par leur propre parole. Hein. Le passage, je n'est pas en train de parler ni de divorce ou de mariage. C'est, le but, ce n'est pas de parler du mariage, mais c'est de dire que, on a été engagé, et le seul moyen de sortir de cet engagement, hein, par exemple, comme le mariage, c'est la mort. La mort de l'un, et puis ça libère, ça l'emploi, même le nom, ça dégage, hein, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de contraintes, et on est libre. Et l'adultère, en fait, c'est une infidélité à la promesse. Hein. C'est pas l'acte. Premièrement, on a promis d'être fidèle, et on ne l'a pas été. Donc, c'est une infidélité. Et donc, mais ce qui est normal, c'est qu'on soit fidèle à l'engagement qu'on a pris. Et la mort de l'un, eh bien, permet de mettre fin à cet engagement, et les deux et sont libérés. Hein, c'est même dans les lois d'aujourd'hui, hein, vous pouvez avoir un criminel, et la police aime bien l'attraper vivant. Parce que quand il est attrapé vivant, on sait quoi faire avec. Mais quand il meurt, ben, il n'y a plus rien. Hein, le juge, il n'a rien à faire. La mort, c'est une sortie. Hein, c'est pour ça que certains, ben, ils se donnent la mort dès qu'ils ont commis le crime, parce qu'on ne peut plus rien. Hein, le point de vue de l'homme ne peut plus rien. Et donc, ce principe de la mort, c'est cette sortie. Et en Jésus-Christ, eh bien, je peux être libéré de cette contrainte sous laquelle je vivais avant, ce régime sous lequel je vivais, celui du péché, celui de certains enseignements, toutes sortes de choses, et je suis libre pour vivre autre chose. C'est pas seulement que je suis libre de vivre autrement, mais c'est que en fait je dois vivre autrement, hein, parce que il y a eu une fin. Et bien sûr, le premier cas auquel il fait référence ici, hein, c'est les Juifs qui étaient sous la loi mosaïque, hein, la loi de Moïse, et l'apôtre Paul était un d'eux qui avait vécu sous cette loi et sous cette contrainte. Et il devait faire ceci, pas cela, et puis certains jours et tout, il vivait sous cela. Mais il y a aussi de nos jours, eh bien, nous avons tous vécu sous certains régimes. Hein. Soit on a vécu selon une certaine religion, plus ou moins bien, ça c'est un autre problème. Mais il y avait, on se déclarait, moi je suis de telle religion, moi je suis de tel truc, je suis ainsi. Il y avait une contrainte. Et le seul moyen de sortir de cette contrainte-là, c'est en Jésus-Christ, c'est possible. D'autres ont adopté une philosophie, hein, donc ils ont pris des idées, ou ils ont fait leur propre cocktail d'idées, et selon lequel ils vivent. C'est leur principe de vie. Et qu'ils ont suivi plus ou moins. D'autres, ça peut être un légalisme évangélique. Hein. Les évangéliques aussi, ils ont des légalismes. Et c'est le légalisme, ce n'est pas le fait d'être strict, c'est le fait d'avoir certaines choses, une liste de choses, et si on les fait, on est bon. Et en fait, c'est le principe de toutes les religions. Si tu fais ça, t'es bon. Alors, si tu as une philosophie, tu vis selon ce que t'es bon. Et chez les évangéliques, c'est pareil, parce qu'il y a des humains de partout. Eh bien, on peut avoir une liste de choses, et si tu fais ça comme ça, t'es bon. Et bon, tous n'ont pas la même liste. Mais le problème, donc toute loi, hein, les Juifs avaient aussi le sentiment que s'ils gardaient la loi, ils étaient bons. L'apôtre Paul pensait pendant un temps, rappeler le jeune homme riche qui est venu voir Jésus, il a dit, moi j'ai gardé toutes les lois. Hein, lui, il était content de lui. Eh bien, tous ces régimes sous lesquels on peut vivre, qui nous permettent de croire qu'on est à la hauteur de quelque chose, tous sont à rejeter. Hein. Il n'y en a aucun qui est reconnu par Dieu. même si je suis dans une église évangélique, mais si je base mes sentiments sur ma fidélité basée sur le fait de garder certaines règles et de plaire à certaines exigences, eh bien, je me trompe. Hein? Il dit non, il faut sortir de là, tu dois être libéré. Même celui qui dit moi, j'ai pas de règles, eh bien, c'est sa règle. Hein? Donc, lui, il doit faire toutes sortes de choses pour faire le contraire de tous les autres, parce que c'est sa règle. Hein, donc même lui, il est sous une contrainte d'un certain régime. Et il n'y a que... donc quand je viens à Christ, quand je reçois Jésus-Christ, ce n'est pas juste une question de mes péchés sont pardonnés, mais c'est une question de, tout d'un coup, je mets fin. C'est la seule manière de sortir de cet ancien régime, cette ancienne manière de penser, cette ancienne valeur, cette philosophie, cette manière de concevoir les choses, d'expliquer les choses. De filtrer les choses, de trier les choses dans la vie. Tout ça, eh bien, la seule sortie, c'est en devenant un avec Jésus-Christ dans sa mort. Hein, donc, et beaucoup n'ont pas compris cela, et c'est pour cela qu'ils ils vivent avec un pied dans le monde et un pied dans l'Église, dans le Seigneur. C'est, ça ne va pas, ce n'est pas possible. Ou tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu es mort ou tu n'es pas mort. Hein? Et c'est, on ne peut pas faire autrement. Hein, vous rappelez, dans l'Apocalypse, il parlait de ces chrétiens qui étaient ni chauds ni froids. Hein? Tu es tiède, il a dit ça, moi je ne connais pas ça. Hein, je rejette. Hein? Combien de fois on entend les gens et dit, bah alors, si je te donne entre 1 et 10, alors tu te situes où dans ta vie spirituelle ? Oh, ben moi, ça doit être entre 5 et 6 par là. Eh ben, honte à toi. C'est pas du 5 ou 6. Ça, c'est, Dieu ne veut pas. Lui, il est content de lui. Moi, je suis juste la moyenne. Peut-être à l'école, si on a un 11, on est content. Mais dans la vie spirituelle, un 11 sur 20, c'est pas bon. Hein, je suis à fond. Même si j'ai des imperfections, mais mes yeux sont fixés sur la perfection. Qui est en Jésus-Christ. Alors, et je ne peux pas, donc cela, ça élimine tous ces gens qui veulent dire, bon, moi, j'ai mes idées, mais il y a des bonnes chez les chrétiens aussi, donc je vais essayer d'intégrer les idées de l'Évangile, les intégrer dans mes idées, et on va faire un cocktail enrichi. Mais non, ça ne marche pas. On ne peut pas, Dieu dit, non, c'est terminé. Hein, c'est comme l'épouse, son mari est décédé, et elle se remarie, mais elle dit, oui, mais bon, mon ancien mari, il aimait comme ça, il aimait ceci, il aimait que je... Écoute, ça y est, c'est terminé, tu n'en parles plus de lui. Maintenant, tu vis pour un autre. Tu ne peux pas vivre pour deux hommes. Tu en choisis. Et dans notre vie spirituelle, c'est exactement pareil. Et donc, maintenant, c'est une question de j'abandonne ceci pour vivre. Et il nous dit, hein, vous l'avez entendu combien de fois ce verset, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont en voie de partir. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne peut pas être nouveau s'il reste de l'ancien. Hein? C'est pas de la restauration que Dieu fait, c'est de la transformation. Hein? Paul parle, il parle ici au verset 6, il nous parle d'un régime nouveau de l'esprit, un régime nouveau. Si c'est nouveau, c'est que ce n'est plus l'ancien, c'est autre chose. C'est un nouveau régime, donc c'est un mode de vie, c'est une mode de pensée, c'est carrément une autre, comme on dirait de nos jours en politique, c'est carrément une autre politique, un autre parti qui a pris le dessus, c'est carrément, on vit sous un autre principe. Eh bien là, c'est un régime nouveau, mais de l'esprit de Dieu, par quelque chose que j'ai pu concocter, ou qu'un certain... prophète ou quelqu'un a pu... Ouais, non, c'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu il nous a révélé le texte biblique. Et même le mot nouveau, là, j'étais, parce que un régime nouveau, j'ai retardé peut-être, j'ai regardé dans le grec pour le mot nouveau, là. Il dit, c'est pas seulement nouveau que c'est un autre, mais c'est un nouveau que je connaissais pas avant, hein, que jamais connu avant. C'est nouveau dans le sens que c'est je découvre. Hein, c'est pas seulement bon, ça a été modifié un petit peu, hein, comme j'ai changé de voiture. En fait, le modèle c'est à peu près le même. Hein, non, c'est carrément autre chose. Et il dit, mais c'est ça. Vous êtes un régime qui ne ressemble en rien à l'ancien. C'est un régime. C'est ce que quand Christ est mort et que je me suis joint à lui dans sa mort, eh bien, c'est pour vivre une autre vie. Hein? Et je crois qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Il emploie le mot baptême, mais justement, c'est ça le sens du baptême, même du baptême par immersion dans l'eau. C'est mort avec Christ et ressuscité pour une nouveauté de vie. C'est pas juste je suis rentré, et je suis devenu membre, ou je suis rentré dans l'Église, ou je suis devenu ça y est, maintenant je suis chrétien. Non. C'est quelque chose qui se passe d'abord dans ton cœur. Hein? Et carrément maintenant, c'est je pense autrement. En Jésus-Christ, maintenant, je suis mort à ma vie précédente. Hein, au verset 4, là, le chapitre 6, verset 4, il dit, « Nous avons donc été ensevelis avec lui dans le baptême, en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts à la gloire de Dieu, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Et là, c'est le même mot. Hein, quand il dit « nouveau régime », ou là, en nouveauté de vie, c'est les seuls deux endroits où ce mot-là se trouve. C'est-à-dire, c'est quelque chose de complètement nouveau. Hein? Donc, nous appartenons à un autre. Et le fruit que nous portions avant, il n'a rien à faire avec le fruit de l'esprit. Hein? Au verset chapitre 6, verset 21, il dit « Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. » Et si je ne rougis pas des fruits que je portais, c'est que je n'ai pas bien compris les choses encore. Il dit, quand on compare hein, le fruit de l'esprit, qu'est-ce que c'est ? Hein, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce qu'avant, quand j'étais dans le monde, c'était le fruit ? Hein ? Est-ce que c'est comme ça qu'on décrivait ma vie ? Maintenant, c'est autre chose. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas une question de ben, « j'ai jamais volé une banque, j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais ceci, et alors ?» Il y a plein de monde qui n'ont jamais tué du monde. Il y a plein de gens qui n'ont jamais volé de banque. Bon, ça, c'est pas qu'ils n'ont pas eu l'idée, mais c'est... Et alors ? C'est pas une question de ce que tu n'as pas fait, c'est une question de... Et maintenant, pour qui est-ce que tu vis ? Le salut de Dieu n'est pas une réformation, c'est pas où on retape la chose, hein, où vous pouvez acheter un téléphone qui a été révisé, remis en état, puis ça fonctionne très bien, puis vous l'achetez un peu moins cher. Il dit non, Christ, Dieu il ne veut pas ça. Il dit moi, je veux transformer. En fait, dans Romains chapitre 12, et je crois qu'on l'a lu la semaine dernière déjà, mais on va en faire référence parce que c'est vraiment l'idée clé. Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il dit « Soyez transformés ». Le mot, c'est le mot de quand on tire notre mot français, hein, c'est un mot grec qui veut dire « métamorphose », hein, c'est « métamorphosé ». Hein, quand on a tous, en tous les cas, moi quand j'étais à l'école, quand on a parlé de métamorphose, on a parlé des petits têtards, hein, qui sont marins, qui respirent dans l'eau, hein, et qui, si on les sort de l'eau, ils meurent. Et puis après, il y a un moment où, hein, il dit, je crois que c'est une trentaine de jours après, ou une soixantaine de jours, je ne me rappelle plus, quand il sort de l'eau, et tout d'un coup, il respire l'air. Il devient aérien. Et même s'il plonge dans l'eau, il est obligé de remonter de temps en temps pour respirer. C'est carrément un changement. Et il ne peut plus retourner à l'état précédent. C'est ça le mot métamorphose. Et il dit, vous, hein, il y a un moment précis où vous passez d'un milieu, hein, le têtard il part du milieu aquatique au milieu aérien. Et puis après, dorénavant, c'est comme ça jusqu'à la fin. Eh bien, pour l'enfant de Dieu qui vient au Seigneur, il y a un moment, hein, c'est ce moment de conversion, c'est où je quitte le milieu précédent et pour entrer dans un milieu nouveau, un régime nouveau, par l'Esprit. C'est ça la pensée, c'est ça la vie chrétienne dont nous parle, l'évangile de Dieu, c'est ça. Hein? Et souvent, bon, on a structuré des églises, on a structuré des trucs, on a des coutumes, des habitudes et tout ça, et finalement, c'est l'échafaudage qui nous maintient et plus l'esprit de la parole. Hein? On a mis toutes sortes de règles, toutes sortes de choses qui sont l'échafaudage d'un mouvement, mais l'esprit même, il n'est plus là. Hein? Et donc, nous devons revenir à la pensée première du Seigneur. Et donc, si maintenant je vis dans ce régime nouveau, eh bien maintenant je ne peux plus penser comme je pensais avant, je n'ai plus les désirs que j'avais avant, je n'ai plus, et il y a une transformation. Vous dites, bon, ben ça n'arrive pas en une nuit. Peut-être ça n'arrive pas en une nuit, mais ça évolue. Hein, c'est là. Bon, je vous ai promis qu'on parlerait de la sanctification, mais en fait c'est ça, il y a un moment où les choses s'enclenchent et ça commence à aller, et ça progresse de plus en plus. Et c'est ça notre vie nouvelle, notre vie spirituelle. Et c'est pour ça que je suis, déjà, il en parlait dans l'Ancien Testament, chez l'apôtre Paul, dans les églises, il y avait des gens dans les églises qui, en fait, n'étaient pas des enfants de Dieu. Hein, c'était des pratiquants. Ils pratiquaient, ils suivaient le mouvement, ils avaient les connaissances, mais pas la vie nouvelle. Et de nos jours, il y en a beaucoup aussi. Hein. Ce n'est pas tous ceux qui s'appellent chrétiens qui sont enfants de Dieu. Hein, en fait, on serait presque déçus. Hein. Et il y en a qui sont contents d'eux. Hein. Moi, au moins, je suis baptisé, je suis dans une bonne église, je suis sauvé, alléluia. Mais ils risquent d'être étonnés. Parce que, où est le signe de cette transformation? Où est cette vie nouvelle? Où, en quoi voyons-nous ce régime nouveau? Hein? Ça t'a affecté comment quand tu es venu au Seigneur? Qu'est-ce que ça a changé? Eh bien, maintenant, je connais Jean 3,16. Ah ben, c'est bien. Moi, je connais bien d'enfants, on avait des clubs d'enfants, il y avait plein d'enfants, ils connaissaient tous Jean 3,16, et ils savaient où les trouver dans la Bible. En fait, toutes nos Bibles, là-bas, à Saint-Denis, eh bien, c'était un peu marron autour du verset, tellement ils avaient mis leurs doigts dessus. Mais est-ce que c'est pour ça qu'ils sont sauvés? Ben, ils ont entendu le message, mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont sauvés. C'est lorsque... Et le signe de cette vie nouvelle, eh bien, c'est cette pensée nouvelle. Je ne pense plus comme avant. En fait, si je relis ce Romains chapitre 12, verset 2, on reviendra encore, mais il dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est-à-dire, on reprogramme le disque dur. Et c'est pas juste une question de il y a des choses que je fais plus, des choses que je fais. Si je reprogramme tout, je vois les choses autrement. Je me rappelle, il y avait un frère qui était venu d'une situation très difficile, et quand il est venu au Seigneur, et puis il s'est levé le matin, et puis il a regardé par la fenêtre, puis il m'a appelé, il m'a dit, Steve, mais les arbres sont plus verts qu'avant. C'est-à-dire, il voyait les choses autrement. Il commençait à voir de la beauté dans le monde qui l'entourait. Avant, il passait, j'avais rencontré son beau-père, et il dit, mais lui, il passait les journées sur le canapé. qui, le beau-père n'est pas devenu croyant, mais il a dit, je rends témoignage du fait qu'il est vraiment changé. Parce qu'avant, il passait tout son temps dans le canapé, maintenant, il est quand même autre chose, il est motivé, il fait des choses, et gloire à Dieu, le Seigneur a fait une œuvre chez lui. Mais il y a du changement. Sinon, il n'y a pas de signe de vie. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi que nous suivions, hein, celle qu'on a adoptée ou celle qui nous a été imposée, peu importe, eh bien, agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Il nous dit à la fin de Romains 6, verset 23, il nous dit « Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de cette vie-là, de ces œuvres, c'est la mort. » C'est la mort spirituelle, c'est dégénérescence. Hein? Tout d'un coup, des choses qui étaient permises dans notre existence ancienne, dans le péché, n'ont plus leur place dans le régime nouveau de l'esprit. C'est autre chose. Alors on a presque l'impression que les gens ils disent « Mais toi, tu es d'une autre planète. » Oui, mais c'est vrai, je respire de l'air d'un autre milieu. C'est, on a les pieds sur terre, mais Jésus-Christ a pu marcher parmi les hommes, mais lui, il était en communion avec le Père tout le temps. Et les pharisiens, tout ça, ceux qui représentaient la structure de la loi, eh bien, ils étaient constamment en conflit avec lui. Pourtant, ils vivaient pour Dieu et avec Dieu, et eux croyaient le faire. Ils étaient en conflit. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes meilleurs, c'est parce qu'on vit une autre vie. Donc, en Jésus-Christ, ce n'est pas une question d'être baptisé ou pas, c'est une question d'être mort avec Christ. Hein. C'est ça, d'être mort avec Christ et ressuscité à une vie nouvelle. Et la question, c'est, il termine ce passage là, dans Romains 7 et verset 6. Vous avez vu la fin, il dit, nous servons sous le régime nouveau, nous servons. Hein. Dans le chapitre 6, on avait vu, il a dit, vous étiez esclaves. Et maintenant, vous êtes esclaves de Dieu. Vous étiez serviteurs. C'est ça qu'on a vu jeudi soir. Hein, il dit, vous allez sortir, Dieu va vous sortir de l'esclavage de l'Égypte pour que vous serviez Dieu. Hein, c'est toujours du service, mais qui est-ce que je sers? Hein, c'est ça la différence. Pour qui est-ce que je vis? Et la question pour moi aujourd'hui, est-ce que c'est clair pour quelqu'un qui vit avec moi, qui vit autour de moi, est-ce que c'est clair pour lui que vraiment je sers Dieu? Quand on est vraiment croyant, on n'a pas besoin de dire aux gens « je suis croyant ». On va leur dire pour qu'ils comprennent pourquoi je suis comme je suis, mais finalement ils disent « ouais, mais c'est évident ». Toi, tu vois les choses autrement, tu réagis autrement. Il y a des comportements que tu n'as pas, que les autres ont, que les autres trouvent normal. Hein. Dans la vie d'avant, quelqu'un est fâché, il a le droit de tout mettre en l'air et puis tout ça. Puis tout normal, il est en colère, il est fâché. Mais quand on est enfant de Dieu, et a fait les choses autrement, réagit autrement. C'est plus normal. Comme le têtard qui est devenu le grenouille, maintenant, il tire sa subsistance d'un autre milieu. Et, hein, il vit d'un autre milieu. Il a quitté un milieu. Ça ne l'empêche pas de plonger dans l'eau, mais il ne vit pas de l'eau. Ce n'est pas l'eau qui le fait vivre. Il ne respire pas, il ne trouve pas son oxygène dans l'eau, il le trouve dans l'air. Et l'enfant de Dieu, eh bien aussi, hein, il a quitté, il ne se nourrit plus de là où il était, mais il se nourrit de l'oxygène du ciel. Hein, donc, d'où l'importance de lire la parole de Dieu, hein, de lire la parole, parce que c'est là que ça va me nourrir. si je lis que les autres choses et jamais la parole de Dieu, mais et comment est-ce que je peux dire, mais moi, maintenant, je suis sous un nouveau régime. Mais non, si je lis la parole de Dieu, et c'est pas seulement juste lire les mots, hein, ça c'est facile à faire, hein, on peut lire et penser à autre chose. Hein, en général, on est assez bon là. Et là, moi, je dois faire très attention parce que tellement que je connais ces passages, ces textes, je dois me concentrer pour rester dedans parce que, je pensais. Et non, mais c'est de pouvoir lire, méditer et tirer subsistance. Hein. Je suis un peu jaloux de ceux qui sont nouveaux dans le Seigneur. Parce que eux, ils ouvrent la Bible et ils lisent. Ils disent, waouh, c'est formidable, c'est merveilleux. Waouh, regarde, tu as vu ce qui a marqué. Et ils ont une joie d'extraordinaire. Ils trouvent, ils découvrent. Et moi, il faut que je creuse. Je creuse dans la parole, je creuse ma tête et je creuse pour trouver quelque chose. Mais le Seigneur a dit, oui, mais bon, c'est... Quand on est bébé, on prend les petits pots, ça vient tout seul, hein, c'est moitié digéré déjà. Mais quand tu es plus grand, il faut mastiquer. Et c'est normal. Et si tu veux être adulte, ben il y a la nourriture d'adulte. Hein. L'adulte, ben lui, il doit éplucher les pommes de terre, il doit aller chercher les pommes de terre, il doit les éplucher, puis il doit après préparer ceci, préparer cela, mais tout ça. Et il doit attendre que tout soit prêt pour pouvoir manger. Bébé, il fait un bruit, maman arrive, et puis on lui met dans la bouche même. Eh oui, mais c'est sûr. Hein. Et on peut pas être bébé et vouloir être traité comme un adulte. Tu choisis. Tu veux être bébé spirituel, eh bien, tu seras traité comme un bébé spirituel. On te passe des biberons. Mais si tu veux développer, tu veux vraiment vivre ce régime, grandir, mûrir, hein, devenir mature, après ça c'est autre chose. Et là, on vit pleinement ce régime que Dieu a pour nous. Et donc, c'est pas une question, je me rappelle, c'était Warren Wiersbe qui vient de rejoindre le Seigneur il n'y a pas longtemps, qui disait. Ne me dis pas que tu es chrétien depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que tu es comme un chrétien de la première année. Tu n'as pas 20 ans d'expérience. Tu as 20 fois l'expérience d'une année. Hein, c'est celui qui est resté parce que j'avais entendu le témoignage d'un pasteur qui disait, à l'époque, quand on écrivait avec de l'encre, eh bien, il ne voulait pas passer dans les classes supérieures parce qu'il ne voulait pas écrire avec l'encre. Donc, il voulait rester dans la même classe, au CP, parce que ça lui faisait peur de devoir écrire avec de l'encre. Mais il y a des chrétiens qui sont comme ça aussi. Ils disent, ouais, mais si j'avance un peu, après, il y a de la responsabilité, après, il faut vivre, il y a des gens qui nous regardent, il faut déclarer que je vais au travail, je leur dis carrément tout de suite, je suis chrétien. Et il y a des choses que je ne peux pas faire, je ne peux pas mentir, je ne peux pas tricher, je ne peux pas... Wow, mais monsieur, comment vous allez travailler ici? Ah ben, c'est à vous de voir. Hein. Si on dit carrément, il n'y a pas de problème, tout de suite, en rentrant. Mais si on ne dit rien, après, il nous donne quelque chose, il dit, ah ben, monsieur, je suis embêté, hein, mais bon, j'en vais le faire. Il y a plein de chrétiens qui vivent contre leur conscience et travaillent en violant leur conscience. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas déclarés tout de suite. Je connais des frères en région parisienne, hein, ils ont cherché du travail, ils disent tout de suite, ils disent, mais dimanche matin, il faut que je vienne à l'église. Je ne peux pas travailler dimanche. Ben, monsieur, écoutez, tout le monde veut les dimanches. Ah, ben, écoutez, monsieur, moi, dimanche matin, je suis à l'église, tous les matins. Après, sinon, je suis à votre disposition, je peux travailler. Mais les patrons, s'ils savent qu'ils ont un bon ouvrier, ils vont se débrouiller. Maintenant, ça devient tellement difficile de trouver quelqu'un qui est prêt à travailler, qui travaille sérieusement et qui est honnête, qu'ils vont s'arranger. Mais moi, j'ai des principes. Hein ? Je connaissais quelqu'un d'autre qui disait, qui savait que c'est dans un milieu où il y a un peu de triche et de mensonge et tout ça. Et a dit, écoutez, débrouillez-vous. Moi, si c'est du mensonge, je le dis. Alors vous débrouillez pour que je ne sois pas au courant. Ça, c'est votre problème. Mais moi, c'est du droit. Je ne vais pas répéter vos mensonges. Si c'est pas vrai, je dirais que c'est pas vrai. Hein ? C'est le patron qui dit, écoute, répondez au téléphone, dites-leur que je ne suis pas là. Comment il n'est pas là ? Moi, je ne peux pas le dire, vous dites-le vous-même. Non, mais c'est... Mais si on déclare tout de suite à l'avance, après, il se débrouille autrement. Hein, il met quelqu'un d'autre pour répondre. Et ça, c'est son problème. Moi, voilà, je vis autrement. Et il faut avoir cette résolution. Hein, c'est un peu... Je pousse là un peu la chose, mais vous rappelez Daniel, quand il est arrivé, et puis on dit, écoutez, on va vous faire une formation pour être des administrateurs dans le royaume de Babylone. Et donc, voilà le régime que vous avez mangé. Elle dit, ah, nous, on ne mange pas ça. Comment vous ne mangez pas ça? Ah, nous, on ne mange pas ça. Il dit, comment on va faire alors? Le roi, il a dit qu'il faut que vous mangez ça, comment je vais faire? Il dit, ah, bah, écoutez, nous, on ne mange pas. Et puis, il a négocié un petit peu, il a dit, vous me mettez à l'épreuve pendant 10 jours, vous me donnez à manger que des légumes, et puis, si on a mauvaise mine, ben, après, bon, on fera comme tu dis. Et mais le Seigneur a honoré leur position, ils ont pris cette résolution, tu as honoré, et finalement, il a dit, bon, ben, écoutez, tant que vous faites des progrès, et finalement, ils ont fait des gros progrès, il dit, le roi, il ne se plaindra pas, il ne posera pas même pas la question. Hein. Mais vous dites, Seigneur, moi, je te mets à l'épreuve. Par la foi, je me déclare pour toi. Maintenant, c'est à toi de faire marcher les choses. Même dans ce monde où on dit, mais vous, si on ne ment pas un peu, si on n'est pas un peu tordu, on ne s'en sort pas. Eh bien, c'est l'occasion de prouver que c'est possible. Mais le juste vivra par la foi. Il dit, Dieu, si je t'honore, tu m'honores. Et nous devons le faire. Il faut le faire. La foi, c'est pas une fois que c'est passé, dire, ah, ben Dieu a pourvu, hein. Non, non, tu le déclares d'abord. Et il y en a qui ont attendu un peu plus longtemps pour trouver du emploi, mais finalement, ils n'ont pas été lésés, ils ont trouvé mieux. Dieu honore ce qu'il honore. Hein. Et c'est un principe biblique, mais comme j'ai vu tellement de cas ou de personnes qui ont... Hein, je vais terminer avec ça, mais il y avait une sœur qui était en France sans papier. Et normalement, alors, elle va à la préfecture pour parler de son cas. Alors, normalement, les gens, sans papier, tout ça, bah, ils racontent une histoire. Ils ont toute une histoire, tout ça. Puis c'est aux policiers d'essayer de trouver la vérité dans tout ça. Elle a été carrément, elle a dit, voilà, moi, sans papier, je suis venu. J'avais un visa de 3 mois. Je suis resté plus longtemps. Mais j'aimerais rester en France. Parce que j'ai trouvé l'évangile et je suis devenue chrétienne et je veux vivre ma foi et donc je veux être en France. La dame m'a dit, mais bon, vous dites avec votre histoire là comme ça, vous n'avez rien du tout. Hein. Ben, elle dit, dites-moi autre chose. Elle dit, mais madame, c'est vrai, moi je dis que la vérité, hein, je ne peux pas dire autrement. Moi j'ai décidé de vivre pour Jésus. Si ce n'est pas possible, ben, tant pis, je rentre et Dieu pourvoira. Elle dit, carrément la dame. La dame dit, mais ça marche pas ça. C'est votre là, dites-moi n'importe quoi, dites-moi quelque chose. Elle dit, non, je peux pas, c'est ça la vérité. Après, je sais pas ce qui s'est passé, si c'est la dame qui a inventé les choses, moi j'en sais rien. Le truc c'est que c'est passé et elle a eu ses papiers avant son mari qui a raconté n'importe quoi. Ça c'est véridique, la dame, je peux vous la présenter. Elle dit, moi, depuis que j'ai reçu Jésus-Christ, c'est comme ça. Et elle est toujours là, et elle a la nationalité française maintenant, en plus. Et elle vit pour le Seigneur, elle est à l'église tous les jours, tous les dimanches. Mais, voyez, mais il faut dire, Dieu dit, écoute, si tu as cru, moi je suis mort pour toi, est-ce que toi tu es mort avec moi? Et si tu es vraiment mort avec moi, ben alors maintenant, c'est un régime nouveau. Le régime nouveau de l'esprit. Et on vit. Et puis c'est aux autres de s'adapter. Hein, Jésus, les gens, ça leur plaisait pas comment il était. Il était ce qu'il était. Et on parle de lui plus longtemps qu'on ne parle de tous ces autres qui l'ont critiqué. Donc, soyons fidèles. Et c'est un acte de foi, mais c'est un acte de foi, une chose vraie, et que Dieu honore. Que le Seigneur nous aide à servir sous le régime nouveau de l'Esprit. Et puis, il faut le faire à 100%. Parce que Dieu dit, si tu le fais à moitié, mais qu'après, je ne sais plus comment en bénir. Si tu fais, tu mélanges les deux sortes de choses. Hein. Tu mettais... On ne peut pas mélanger des faux billets avec des vrais billets et puis espérer que ça passe. Il dit non, on ne peut pas. Donc, que le Seigneur nous aide et faisons confiance à Dieu et vivons pleinement pour lui. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul et c'est ce que nous devons faire. Nous allons prier.